Mais évidemment, beaucoup de questions tout de suite. D'où vient la sorcellerie? Qui a inventé la sorcellerie? Comment est arrivée la diablerie qui fait que nous avons été encagés pendant tant de millions d'années? À quelle nécessité cela a-t-il répondu? Y a-t-il une mauvaise volonté?
Est-ce une erreur?
Bon,
ou bien, quelle est l'origine de la mort?
Quelle est l'origine de la mort? Vous avez décrit le moment où l'énergie s'enroule sur elle-même pour former, par exemple, une particule. Cet enroulement, a dit Bringuier, est-il innocent? Bon, vous avez dit oui, il est innocent. Mais l'innocence se transforme ensuite en drame.
Oui.
Donc, dans la transformation de l'innocence, de l'enroulement de l'énergie en matière, à l'aboutissement de la société humaine, il y a, au moment où on entre dans la société humaine, l'apparition d'un drame.
En fait, il y a eu toujours une sorte de drame à partir du moment où un premier enroulement, c'est comme fossilisé ou cristallisé. À chaque fois que cet enroulement s'est fossilisé dans une espèce, elle est devenue stagnante et la nature l'a brisée pour aller plus loin. Mais chaque passage d'une espèce à une autre est un drame pour la vieille espèce, évidemment, puisque ça brise son habituelle façon d'enrouler la matière, si nous pouvons dire, ou d'enrouler l'énergie qui forme la matière. Alors, de cette façon, il y a la cage, chaque espèce a sa cage propre, une cage physiologique, qui fait qu'on est obligé de la briser pour aller plus loin. Avec l'homme, il y a un phénomène supplémentaire qui s'est produit. Non seulement nous avons une cage physiologique particulière, qui n'est pas différente de celle du chimpanzé, mais nous avons une deuxième cage par là-dessus. Nous avons une cage mentale. Et c'est ça la grande différence. Parce que toutes les espèces avant l'homme ne se pensaient jamais en tant qu'individu séparé, en tant que moi. C'était une sorte de totalité de conscience dans laquelle chaque unité vivait spontanément comme le tout. Chacun étant participant à une conscience totale, rien n'est séparé de l'autre, rien n'est rapporté à un moi-je, tout coule dans une espèce de grande harmonie. Il n'y a pas pour eux de toi ou de moi, de demain et d'hier, de vie ou même de mort. Il n'y a pas de je par rapport auquel aucune erreur puisse arriver. Ils sont dans une totalité qui est infaillible, comme l'oiseau qui va vers les tropiques ou comme l'anguille qui va vers les sargasses, n'est-ce pas? Et qui va infailliblement et harmonieusement. De quoi sommes-nous comme constitués? En fait, chaque élément de matière est constitué d'un réseau de forces qui lui donne une sorte de vibration spéciale. La vibration d'une plante n'est pas la même vibration que celle d'un animal, n'est-ce pas? Cette vibration, c'est ce qui fait que nous sommes liés ensemble dans un certain corps, que nous avons une certaine habitude d'être. Eh bien, quand on arrive à cette matière pure, on peut lui donner un autre type de vibration. Et Mère ne s'est servie que d'un seul moyen dans cette recherche. Elle s'est servie du mantra. Le mantra, c'est un son essentiel, un son qui a un pouvoir. C'est-à-dire qu'au lieu que les cellules éperdument engrènent leur habitude de mort et je me décompose et je vais attraper un cancer et tout ce qui fait la routine habituelle des cellules, dès qu'il a la moindre chose, il s'affole, je vais avoir la fièvre et naturellement, il attrape tout ce qu'il croit qu'il va avoir. Au lieu de laisser cette matière enrouler éperdument ses catastrophes, on peut lui faire enrouler de même un autre type de vibration. Et c'est ce qu'on appelle le mantra. Mère s'est servie d'un mantra, c'est-à-dire qu'elle a infusé dans tout son corps un autre type de vibration qui lui-même automatiquement clarifie cette matière.
Le mantra est le son pur d'une chose, quelle qu'elle soit, l'essence de sa vibration, ce qui la crée ou la maintient en forme. La poésie, la musique sont une forme de cette magie du son. Lorsque c'est une vraie musique et une vraie poésie, c'est-à-dire qu'ils évoquent réellement certaines forces ou aspirations, certaines formes d'être. La vraie magie est la plus simple. C'est celle que nous possédons sans le savoir, qui n'a l'air de rien, mais qui peut être formidablement puissante si elle est pure, si elle jaillit purement. C'est le cri de notre cœur, le besoin de notre être ramassé dans une seconde de vie ou de mort. Le dernier mot qui reste quand tout affiche le camp. C'est notre son pur, celui qui ne ressemble à nul autre et qui fait que nous sommes telle personne, et non cet anonyme n'importe qui. Chacun peut trouver ce son ou une traduction de ce son en un mot, quelques mots, qui sont comme notre mot de passe, notre sésame particulier. Un son qui représente une expérience et qui a le pouvoir de reproduire cette expérience. Ce peut être un son de flamme, un son de certitude, de liberté, un son de joie, un son d'amour pur. Ça, qui pour nous a un sens total, ce cri au sommet de notre être, ou dans l'abîme de notre être quand tout est perdu. Et ce son, on essaie de l'infuser dans la matière quotidienne, de toutes les minutes, toutes les secondes, dans tous les gestes, toutes les imbécilités, toutes les inutilités, les erreurs, les tristesses, les joies, tout. Il faut que ça devienne la musique de notre matière. C'est cela, le mantra.
Ce mantra a une action sur mon corps. C'est curieux, ça coagule quelque chose. Toute la vie cellulaire devient une masse solide, compacte et d'une concentration formidable. Et une seule vibration. Au lieu de toutes les vibrations habituelles du corps, il n'y a plus qu'une seule vibration, une seule masse. Dès que je suis une minute tranquille où je me concentre, ça débute toujours par ce mantra. Il y a une réponse dans les cellules du corps. Elles commencent toutes à vibrer. L'autre jour, c'est venu, ça a pris tout le corps. C'est monté comme ça. Toutes les cellules tremblaient. Et avec une puissance, la vibration allait en s'amplifiant, grossissant toujours, en même temps que le son lui-même s'amplifiait. S'amplifiait. Et toutes les cellules du corps étaient prises d'une intensité d'aspiration, comme si tout le corps se gonflait. Ça devenait formidable. J'avais l'impression que tout allait éclater. Et ça a un pouvoir de transformation. J'ai eu l'impression que si je continuais, quelque chose allait arriver. Dans ce sens qu'il y aurait un équilibre des cellules du corps qui changerait.
Il y a donc deux méthodes. Une de purification par l'éjection hors de soi des milliers de réflexes montés dans la conscience, d'habitude, de civilisation pour se retrouver dans un état nu par rapport à des habitudes mentales.
Mais c'est votre corps lui-même engraine ce mantra, n'est-ce pas? Comme quand vous descendez le boulevard, vous êtes constamment à remuer ensemble un million d'idées ou un million d'appréhensions ou de désirs. Si au lieu d'engrainer toujours cette même mécanique, vous pouvez engrainer un autre type de vibration, le corps se mettra, et d'une si bonne volonté fondamentale, qu'il se mettra à répéter la nouvelle vibration que vous lui avez inculquée, et il la répétera aussi implacablement, qui vous répète sa crainte du cancer, sa peur de la mort, et toute son habitude de vivre. C'est la nouvelle vibration même qui dissoudra tout le reste.
Ah oui, c'est un procédé répétitif, incantatoire et, ou non
on peut, oui. Oui. Mais ce n'est pas des choses qui se font à haute voix, n'est-ce pas? C'est une vibration que l'on engraine dans la matière. Mère s'est beaucoup servi de ce moyen pour clarifier, justement, pour apprendre aux cellules à répéter automatiquement. Et c'est ça la merveille de la matière. Une fois qu'elle a compris, elle a compris pour toujours.
Oui, c'est ce qu'on a vu avec le code génétique, par exemple. Il y a une persistance, alors oui, il faut changer la persistance.
Il faut changer la persistance. Quand le corps a appris à plonger ou à monter à bicyclette, il le sait une fois pour toutes. C'est immuable. La connaissance du corps, c'est la chose la plus immuable qui soit.
Et si on lui apprend à ne pas mourir, il ne meurt pas.
Exactement. C'est vraiment l'affaire d'une nouvelle espèce. Tout le cheminement si difficile de Mère et de Sri Aurobindo, pour nous, il peut se ramener d'une façon très simple à changer la qualité vibratoire du corps.
Est-ce que ceci est un fait de volonté ?
Au départ, oui. Au départ, oui, il faut changer d'habitude, n'est-ce pas ? Un mantra, c'est un certain nombre de sons. Eh bien, il faut prendre l'habitude de répéter intérieurement ces sons, parce que le corps est constamment en train d'oublier, puis tout d'un coup de réengrainer « Oh, mais je vais me faire écraser si je ne traverse pas assez vite. Oh, mais il est plein de « Oh, mais » ce corps, n'est-ce pas ? À chaque instant, il faut le rattraper dans l'autre mode de vie.
Alors, comment on fait pour faire cela ?
Simplement, il faut s'habituer. On peut le faire constamment dans la rue, en montant les escaliers, en les descendant.
Mais ce mantra n'est pas quelque chose qui nous est extérieur. Je veux dire qu'il faut trouver le mantra qui soit à notre mesure.
Alors ça, je ne sais pas. Je sais que seulement celui dont Mère se servait. Oui. Il y avait 7 syllabes. Oui. Ces 7 syllabes, elle les a répétées. Nuit et jour, 7 syllabes. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate. Cette nouvelle vibration, quand on peut la faire entrer dans le corps, c'est elle qui dissout spontanément les anxiétés, les craintes, les maladies, qui dissout tout, parce que c'est comme une vibration de soleil, n'est-ce pas? La matière, en quoi croit-elle la matière? Elle croit dans le soleil, elle croit dans le grand vent, elle croit dans la légèreté, elle croit dans la liberté. C'est nous qui n'y croyons plus, mais la matière elle-même, elle se sent immortelle.
Il faudrait peut-être s'arrêter une seconde sur les 7 syllabes. On peut remarquer les couplages. Il y a une syllabe, et puis 2, et puis 4. Est-ce que cette répartition est intéressante à un sens?
Certainement tout a un sens, n'est-ce pas? Mais c'était cette 7 syllabes-là qu'elle a choisies, ou qui lui ont été données. N'est-ce pas? C'est une science qui est bien connue dans l'Inde. Chaque objet est constitué d'un réseau de forces. Mmh. Et la vibration de ces forces produit une certaine vibration, c'est-à-dire un son. Une vibration, ça veut dire un son. Alors, une connaissance de l'Inde, par exemple, la connaissance dite tantrique, connaît le son des choses. Le son du feu, par exemple, le son de l'eau, le son des éléments. Et quand on a la connaissance du son, on peut créer, si je puis dire, l'objet du son. On peut mettre le feu, on peut allumer le feu en donnant le son du feu. Il y a toute une science ainsi.
C'est un mouvement de vagues. Un mouvement de vagues matérielles, corporelles, si l'on peut dire. Vaste. Comme la terre, mais pas rond, ni plat, ni quelque chose qui est très infini de sensations, mais qui est en mouvement ondulatoire. Et ce mouvement ondulatoire, c'est le mouvement de la vie. Et alors, la conscience du corps, je suppose, il y a une conscience là, qui flotte là-dedans. dans une sorte de paix éternelle. Mais ce n'est pas une étendue. Le mot est faux. C'est un mouvement qui n'a pas de limite et qui a un rythme très harmonieux et très tranquille, très vaste, très calme. Et c'est ce mouvement qui est la vie. Je marche autour de la chambre. Et c'est ça qui marche. Et c'est très silencieux. Il n'y a pas de pensée. Il y a à peine une capacité d'observation et une infinitude de mouvements, de vibrations, de quelque chose qui serait l'essence des pensées, qui se meut là, dans un mouvement rythmique, comme un mouvement de vague qui n'a ni commencement ni fin.
Vous avez vous-même trouvé vos syllabes, M. Sadpoint.
Bon, je ne connais que celles de mes. Je les ai expérimentées pendant des années.
Pour vous-même?
Pour moi-même. Alors, cette nouvelle vibration à l'expérience, elle est très merveilleuse. On voit bien des approches de maladie, des approches de mauvaise volonté, des approches d'accident, des approches de désir, toutes sortes de choses qui viennent sur vous presque visiblement du dehors, et quand ça rencontre la vibration du mantra, c'est comme dissous.
À votre avis, elle a réussi pour elle-même ou non?
Mais alors c'est là où tout le problème de l'espèce se pose. On ne peut pas réussir tout seul. Ou si on le pouvait, ça n'aurait vraiment pas de sens pour l'évolution. À quoi sert d'être supramental tout seul dans sa chambre? Il faut que l'espèce tout entière vire dans l'autre vibration ou dans l'autre perception. N'est-ce pas? Nous sommes, en fait, le phénomène ne va pas se produire d'une façon si extraordinaire qu'on va se mettre à changer de structure, à avoir un troisième œil ou que sais-je, toutes les imaginations qu'on a données. Le phénomène, il va se produire comment? Il se produira d'abord probablement dans un grand bouleversement des perceptions. Toutes nos perceptions dans la cage mentale sont des perceptions fausses. Nos perceptions de maladie, de près, de loin, tout notre système de perception est faux. Eh bien, le premier passage à la nouvelle espèce se traduira probablement par un, comme disait Mère, un chaos dans les perceptions. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'espèce dans sa totalité va commencer à toucher une espèce d'absurdité, une sorte d'écroulement de ces murs qui fera qu'une autre perception deviendra possible. Oui, qu'ils seront obligés à une autre perception.
Tactile, olfactile.
Oui, surtout visuel et tactile. Oui, surtout visuel, n'est-ce pas? Toutes les perceptions de la conscience vont changer. Nous allons vers ce chaos, ou peut-être que nous sommes déjà dans ce chaos. On voit bien que l'instrument mental et que tous nos instruments sont en train de faire faillite. Et que c'est réellement grâce à cette faillite même que peut se faufiler quelque chose d'autre.
Il doit y avoir quelque chose de nouveau dans la conscience des agrégats cellulaires. Quelque chose. Résultat, j'ai eu une série d'expériences fantastiques, cellulaires, que je ne peux même pas expliquer, qui doivent être le commencement d'une nouvelle révélation. Quand l'expérience a commencé, il y avait quelque chose en moi qui regardait. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui regarde d'une façon un peu ironique. toujours amusé. Et qui a dit « Bon, si cela arrivait à quelqu'un d'autre, on se croirait bien malade ou à moitié fou. » Alors, j'étais très tranquille et j'ai dit « Bien, il faut laisser faire. Je vais regarder. Je vais voir. » Indescriptible. Indescriptible. Il faudra que l'expérience se répète plusieurs fois pour que je puisse comprendre. Fantastique. Cela a commencé à 8h30 et ça a duré jusqu'à 2h30 du matin. C'est-à-dire que pas une seconde, je n'ai perdu conscience. Et que j'étais là à observer les choses les plus fantastiques. Je ne sais pas où ça va aller. C'est indescriptible. N'est-ce pas? On devient une forêt, une rivière, une montagne, une maison. Et c'est la sensation du corps.
Quand j'ai pris l'avion de Bombay pour venir à Paris, nous avons fait escale à Koweït. Et j'étais dans ces super jumbo 700, je ne sais trop combien. 47. Il y en avait 747. Il y en avait deux autres sur la piste. Il y avait les énormes tankers qui amenaient de l'essence ou du fuel, je ne sais comment on appelle ça, pour ravitailler des avions. Et puis il y avait des autos avec des grues mécaniques pour monter les bagages au premier étage de l'avion, puis le ravitaillement au deuxième étage de l'avion. C'était un spectacle si fantastique. Et je me disais, mais dans 10 ans, il y en aura 50 fois plus. Alors j'imaginais ce Koweït peuplé de ces énormes sauriens, n'est-ce pas? Ces avions, c'était comme des grands, des gigantesques sauriens de l'ère secondaire. Et pour moi, c'était tout à fait tellement évident que nous en étions maintenant, aujourd'hui, comme réellement à la fin de l'ère secondaire, quand ces sauriens sont devenus si énormes qu'ils ont fini par bouffer tout le paysage et à devenir si lourds qu'ils ne pouvaient plus se nourrir eux-mêmes et qu'ils en ont crevé sur place. Ou peut-être, ont-ils donné le point de départ à la branche des oiseaux. Nous sommes arrivés au point, justement, où le monstre ne peut plus continuer à s'enfler davantage, où on doit forcément débucher sur une autre espèce, sur quelque chose d'autre dans notre matière et dans nos perceptions.
Et alors, comment se définira la nouvelle espèce? Oui, parce que vous l'avez... On la voit décrite dans les récits que vous faites.
Oui, merci.
Il y a de nombreux exemples, soit la rencontre, par exemple, de la mer avec ses navigateurs. Elle arrive en bateau dans une île et là, il y a une foule de gens qui sont composés de matières nouvelles.
Ce sont des visions en avant, n'est-ce pas? Et ça paraît si lointain que...
Parce que la nouvelle espèce, c'est le problème de la mort. C'est donc l'immortalité.
C'est un état qui est sans mort. N'est-ce pas? La mort, dans toute l'évolution, la mort était là comme une aide, en fait, pour que l'énergie puisse perpétuellement se développer. Quand la matière a fini par, dans chaque espèce, a voulu emprisonner, enrouler son habitude et à la fossiliser, il fallait bien que la mort intervienne, sinon on se serait éternellement figé dans la même forme. La mort, c'est une sorte de stratégie évolutive pour obliger les espèces à aller toujours plus loin. Mais du jour où nous serons capables de progresser, où notre matière sera une, si je puis dire, avec cette grande énergie, il n'y aura plus de raison de mourir, n'est-ce pas? La mort venait de ce que l'on emprisonnait le courant, de ce que le courant ne passait plus.
C'est un pis-aller, la mort.
C'est un moyen C'est pas un pis-aller, c'est un moyen, n'est-ce pas? Comme c'est un moyen pour aller plus loin. C'est l'obstacle qui vous donne l'énergie d'aller plus loin. C'est parce que nous mourons et que c'est si dur pour nous et si douloureux pour nous que nous cherchons le moyen de ne plus mourir.
Tu sais, on est juste à la frontière, à la lisière. C'est comme s'il y avait un rideau à demi transparent et on voit les choses de l'autre côté. On essaie de les attraper, mais on ne peut pas encore. Mais c'est ce sentiment d'une telle proximité. Parfois, tout d'un coup, je me vois comme une puissance concentrée, formidable, en train de pousser, pousser, pousser dans une concentration intérieure pour passer au travers. Cela m'arrive n'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment. Je vois tout un ensemble de consciences rassemblées dans un pouvoir formidable qui pousse, pousse, pousse pour passer de l'autre côté. Quand on passera de l'autre côté, ce sera bien.
Il est certain que par rapport à l'immensité des complexités des pensées philosophiques, par exemple, de tout l'Occident, et qui aboutissent d'ailleurs très souvent à des visions qui ressemblent à celles que vous décrivez par ailleurs, l'idée qu'il suffise de se répéter chaque jour,
à chaque instant,
un certain son pour que l'ouverture de la mer Rouge se fasse devant nous, comme autrefois dans la grande migration des Juifs, est une idée qui évidemment ne peut pas passer normalement dans la conscience d'un homme d'ici sans un certain effarement.
Est-ce qu'il n'est pas plus effarant de regarder ce qui se passe?
Si, bien entendu, mais il y a tout. La complexité absolument constante, le degré de plus en plus sophistiqué des sociétés, l'espèce de formidable réseau qui caractérise toute vie économique moderne et qui enferme en effet les individus devant des machineries humaines absolument incontrôlables, donne l'impression que ce sont des problèmes insolubles, que c'est aucune révolution ne résoudra ça.
Oui, c'est insoluble. Bon,
et que... C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas aboutir à l'idée finale que si ce n'est pas l'individu, chaque homme dans l'ensemble de l'espèce qui se transforme lui-même complètement, en effet, il n'y aura probablement rien à faire. Bon. Alors, la transformation de chacun d'entre nous qui a été tentée si longtemps, pendant 2 millions d'années, il y a toujours une tradition qui a été constante et qui ne cesse de dire aux gens... Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, intéressez-vous à l'essentiel. Tradition qui n'a jamais été franchement écoutée, qui coule dans l'océan de fureur de l'histoire humaine comme un petit ruisseau au milieu de l'océan, agité, mais qui n'en a pas moins continué à faire sa percée, et qui donne les mêmes conseils, qui donne les mêmes indications, mais qui ne donnait pas du tout, car c'est ça qu'il y a, à mon avis, de très nouveau dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez, et l'expérience de Mère, c'est que cette fois-ci, il ne s'agit pas de se sortir de la matière,
il ne s'agit
pas de faire son salut dans une espèce de chemin individuel qui... nous fait abandonner complètement la nature pour aller dans une espèce de royaume inconnu, totalement abstrait. Et il s'agit d'en finir avec les abstractions intellectuelles, symbolistes, symboliques et spirituelles aussi, puisque votre propos, c'est bien de dire tout est là, c'est maintenant, dans l'union complète, dans la compréhension enfin que la matière c'est l'esprit, l'esprit c'est la matière, qui n'est, une notion qui n'est absolument pas étrangère, à mon avis, à beaucoup de méditations scientifiques ici, mais ce qu'il y a d'essentiellement neuf, c'est quand même cette expérience que La matière, c'est aussi notre corps, que quand je vous parle, il sort un certain nombre de vibrations de ma bouche, qui c'est aussi de la matière, qui entre dans un espace qui est l'air, qui est de la matière, qui aboutit à vos oreilles, qui est de la matière, et qu'il y a dans cette sonorisation entre vous et moi ce que nous appelons une signification, et qu'il ne faut pas chercher de mystérieuses présences hors de nous. Il n'y a pas de mystérieuses présences. Toute présence est déjà là, la vie proposée par votre expérience, ça consiste à rentrer à nouveau dans la matière.
Oui.
Mais alors, c'est cette rentrée dans la matière de ce que traditionnellement on appelle l'esprit, l'intelligence, l'intellect, etc., etc., la conscience, qui est très difficile à saisir. Autant on peut très bien comprendre, en vous lisant, on voit les choses. On imagine qu'on puisse descendre de couche en couche et qu'on dépasse la particule subnucléaire dont nous acceptons l'idée parce que ce sont les savants qui nous l'ont dite, et que derrière cette subparticule, nous admettons l'idée que c'est l'énergie, mot d'ailleurs, qui n'a jamais été franchement définie dans sa nature, qu'est-ce que c'est que cette énergie, comment elle se transforme en particule et de la particule en énergie, etc. Et au-delà de ça, on peut voir très bien comment d'une certaine façon, on arriverait à toucher comme du doigt cette énergie, comme on touche l'électricité en mettant son doigt dans la prise, dans la comparaison que vous avez vous-même employée. Mais, l'ayant vu, il est certain qu'on ne le fait pas. Et que cette vision qu'on retire de vos livres, qu'on accepte, et qu'on peut lire aussi comme un grand poème. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas dans la vision de Victor Hugo cette idée qui a traîné dans toute l'humanité que un jour la pierre parlera, mais qu'il y a parmi nos vieux symboles des vieilles idées, que par exemple la signification de la Vierge dans toutes les religions, y compris la nôtre, c'est qu'elle est l'intermédiaire entre l'esprit et la matière, de manière à favoriser la transformation de la matière en conscience.
En fait, c'est extraordinairement simple.
Oui, voilà, c'est ça que
c'est
extraordinairement
simple. Il y a cet exemple que je donne dans le livre, cet exemple qui est si simple. À la fin de l'ère secondaire, il y a des marais qui sont desséchés. Et puis les reptiles étaient en train de crever dans leurs marais desséchés. Et de par ce dessèchement même, a dû naître dans l'espèce des reptiles un besoin qui a fait que des reptiles sont sortis des oiseaux. L'évolution nous le dit. C'est un phénomène scientifique reconnu. Mais qu'est-ce qui a fait le passage du reptile à l'oiseau? C'est le besoin, c'est la nécessité. C'est une poussée interne qui a fait que, tout d'un coup, quelque chose s'est produit, qu'ils ont commencé à pousser des ailes. Eh bien, dans notre espèce même, la clé est la même. Elle est toujours la même à chaque étape de l'évolution. C'est un besoin.
Ça, donc un il faut besoin. Intensifier le besoin.
Mais c'est la clé même.
Oui.
Et ce besoin est en train de jaillir partout d'ailleurs. Tous les gens sont suffoqués.
Oui.
Ils commencent à n'en plus pouvoir de cette vie. Eh bien ce besoin est la clé même.
Comment mère avait-elle trouvé son mantra? Celui-là justement.
Elle l'a entendu un jour. Et puis spontanément elle a su que c'était ça pour elle.
Vers quel moment de sa vie?
C'était en 57.
Sri Aurobindo avait le sien aussi.
Ah, il n'a jamais rien dit. N'est-ce pas? Mère a retrouvé, si je puis dire, tous les secrets de Sri Aurobindo parce que, forcément, elle a suivi les traces, n'est-ce pas? C'est un chemin qui se déroule dans le corps, pas dans la pensée. Alors, nécessairement, elle s'est retrouvée devant les mêmes obstacles que Sri Aurobindo et devant les mêmes impossibilités et en même temps la même solution dans l'impossibilité. Alors certainement, Sri Aurobindo a dû avoir sa vibration et probablement la même vibration, le même mantra que mai, quelque chose du même ordre. Mais ça, nous ne le savons pas.
À votre avis, justement, pourquoi ne le savons-nous pas? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit?
Qui aurait compris? Et à quoi sert de dire à quelqu'un, c'est le chemin, il faut qu'il le fasse. Il faut plonger pour apprendre à plonger. On ne peut pas dire faire une description du plongeon.
Oui, c'est vrai.
On ne peut pas faire une description de la manière d'aller à bicyclette. Il faut empoigner la bicyclette et monter dessus.
Mère l'a dit à vous et vous l'avez compris.
Oh, je l'ai compris, je ne sais pas. J'ai une lueur de compréhension. C'est peut-être parce que le moment était venu de réellement d'essayer de faire comprendre au monde la grande possibilité. Ce n'est plus l'affaire des petits ashrams, des petits monastères, des petits génies à Weimar ou bien à Rome ou dans n'importe quel autre coin du monde. C'est plus l'affaire des petits privilégiés, c'est l'affaire de toute la terre. Et nous sommes au moment où le monstre est si impossible qu'il faut vraiment que l'espèce trouve la clé, le levier, qu'elle comprenne le sens, qu'elle attrape la vibration qui renversera le mur. Qu'elle sorte de l'hypnose, de cette croyance. Elle ne fait que croire en la maladie, en la mort, en les désastres, en les accidents. Elle croit en tout ce qui est négatif, cette pauvre espèce. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans la pensée humaine qui descend le boulevard Saint-Michel entre le numéro 1 et le numéro 64? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ces 200 mètres? Qu'est-ce qu'il y a de solaire là-dedans? Il n'y a rien que des petits désastres et des petits désirs. Alors c'est une autre vibration qu'il faut introduire.
Pour les désirs, le désir, c'est du côté de l'espérance ou du côté de la mort?
Le désir, c'est ce qu'il veut prendre pour soi, et prendre pour soi, c'est toujours désastreux. Le seul acte qui soit créateur, c'est de donner. Alors cette autre vibration, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose de si compliqué. Un enfant comprendrait ça très bien.
C'est une des choses que vous dites d'ailleurs, c'est que les enfants ont l'air d'avoir des secrets que nous, adultes,
bien
perdons.
Bien entendu, on a tout recouvert d'impossibilités et de lois. N'est-ce pas ? Nous ne croyons plus en rien qu'en ce qu'on nous bourre dans le crâne. Et dans les affiches qui nous hurlent et nous serinent partout que tel produit est meilleur que tel autre, et ceci et cela, et toutes les âneries, on vit dans une affolante hallucination. Il y a une autre vibration à insuffler là. Le moyen, il est simple. Le moyen, il est dans le besoin d'abord dans le besoin d'en sortir. Et ensuite, dans cette haute manière de vibrer. C'est ça qui commence à dénouer la mort, à défaire la mort, à défaire les maladies, à défaire les accidents.
Défaire est un bon mot, d'ailleurs.
Oui, les défaits, c'est ça.
Comme on défait un nœud.
Exactement. Et ça se fait spontanément, moi... Je ne connais que ma propre expérience, mais quand cette vibration-là vient ou s'épanouit dans le cœur, c'est comme un gonflement chaud, n'est-ce pas, et doux en même temps, et si puissant, n'est-ce pas. Alors on voit bien que là, le désir ou la mauvaise volonté ou l'accident ou la chose qui vient, le petit nuage noir qui vient pour faire son habituelle confusion, il dissout tout de suite.
Il est dissous, pas seulement en vous-même, mais dans la réalité extérieure.
Ah, tout de suite, n'est-ce pas ? L'accident ne se produit pas. Moi, j'ai eu un exemple très extraordinaire, mais on n'ose guère se donner des exemples personnels. Il n'y a pas si longtemps, j'avais l'habitude de me promener tous les jours près dans les canyons. Tous les jours, je vais faire une marche à pied dans les canyons aux environs d'Oroville. Ce sont des terres trouées par les moussons. Ce sont d'admirables canyons de terre rouge. Et puis, trois hommes sont venus. J'ai compris tout de suite qu'ils venaient m'assassiner. Et je ne sais pas ce qui s'est produit. J'étais assis au bord d'un de ces canyons. Comme d'habitude, je répétais le mantra. Et c'est comme si mon corps n'avait... aucune réaction de peur, il n'en est pas question, mais aucune réaction, comme si rien ne se passait. Simplement, le corps répétait le mantra. Alors, ces trois hommes sont venus. Au bout d'un certain temps, j'ai senti qu'il fallait me lever. Il y en a un qui a pris mon bras droit, l'autre a pris mon bras gauche. Et puis, il y a l'homme devant qui a levé son poing pour me pousser dans le trou. Et mon regard a suivi son poing, puis j'ai rencontré ses yeux. Et très simplement, il n'y a aucun miracle, aucun pouvoir, simplement, eh ben, son bras est retombé, le bras d'autre est retombé, comme si de rien n'était, je suis parti. N'est-ce pas, cette vibration-là, elle est si simple, n'est-ce pas, si matérielle, et si harmonieuse en même temps, qu'automatiquement, toute la matière environnante répond à l'harmonie qui est là. Elle ne peut pas être mortelle ou accidentelle.
Pourquoi avez-vous pensé qu'il voulait vous assassiner ?
Ça, quand on vient vous assassiner, vous savez, si ça vous est arrivé, le corps comprend tout de suite ce que ça veut dire. Eh bien, c'est comme si ce corps avait perdu l'habitude d'avoir peur, avait perdu l'habitude de craindre la mort, bien entendu. Comme si tout ça n'existait pas pour lui. Et ça n'existait si peu pour cette matière que la matière qui était là devant moi sentait pareil. Et ils sont tous les trois arrêtés dans leur histoire. J'imagine qu'ils devaient en être les premiers suffoqués.
Il y a des moments où le corps sent une force si grande qu'il pourrait faire n'importe quoi. Une force d'une autre qualité, mais beaucoup plus grande qu'avant. Et il y a des moments où il ne peut même pas se tenir debout. Et pour une raison qui n'est pas physique. Il n'obéit plus aux mêmes lois qui nous font tenir debout. Alors, une expérience curieuse. C'est une expérience curieuse. Le corps sent qu'il n'appartient plus à la vieille manière d'être, mais il sait qu'il n'est pas encore dans la nouvelle et qu'il est... Il n'est plus mortel et il n'est pas encore immortel. C'est tout à fait curieux, très curieux. Et quelquefois, on passe du malaise le plus effroyable à la merveille. Il faut que je sois tout le temps concentré. Pour pouvoir faire les choses. Quelquefois, plus un mot dans ma tête. Rien. Quelquefois, je vois et je sais ce qui se passe partout. Il faut que je fasse attention quand je suis avec les gens. Autrement, on croirait que je deviens folle. Le corps se trouve tout d'un coup en dehors de toutes les habitudes, de toutes les actions, réactions, conséquences. Et là, c'est un émerveillement. Et puis ça disparaît. C'est si nouveau pour la conscience matérielle que chaque fois, on se sent comme sur le bord d'un précipice.
Ma toute première expérience quand j'étais enfant, j'allais tous les jours au lycée Buffon. Et de chez moi au lycée Buffon, il fallait que je suive la rue Lecourbe. J'étais en classe de 7e, j'étais donc un gosse. Alors 4 fois par jour, je suivais la rue Lecourbe pour aller au lycée Buffon et retour. Aller, retour, aller, retour. Et finalement, mais ça me paraissait comme quelque chose de terrifiant. Cette rue où il n'y avait rien. Cette rue qui était seulement d'un point à un autre. Ça me paraissait terrifiant. Cette rue où il n'y avait rien. Il y avait tous les jours le crémier, le pharmacien avec sa grosse bouteille. C'était terrifiant. Et tout ça, moi, qu'est-ce que j'étais des pas là-dedans. J'étais rien là-dedans. Et c'était tellement intense, ça brûlait presque dans mon cœur. Eh bien, C'est quelque chose comme ça qui est la clé, n'est-ce pas ? C'est le besoin d'un sens. Alors, c'est pas dans la pensée que ça se déroule. C'est très physique, n'est-ce pas ? Moi, cette rue, Le Courbe, elle était très physique pour moi. Elle était écrasante parce qu'elle n'avait pas de sens. Et le fait même que je criais pour en avoir un sens, c'était déjà la réponse, c'était déjà le sens. Eh bien, c'est ça le levier. Il faut que les êtres aient besoin, qu'ils crient après l'air pur, après le sens.
Il y a eu plus tard une rue Le Courbe aggravée, si j'ose dire. Ça a été les camps pour vous.
Ah oui, ça c'est autre chose. Mais là, c'est aussi une grâce, n'est-ce pas ? C'est toujours la même chose, c'est la grâce dans l'obstacle. Quand on vous a ruiné tous vos moyens, eh bien, il faut mourir ou il faut trouver un autre moyen. Alors là, on débouche, oui, sur quelque chose qui est plus fort que tous les accidents, la mort, la cruauté, quelque chose qui est au-dessus en dépit de tout. C'est comme si tout d'un coup j'avais été dépouillé de mes oripeaux, et puis dans ce moment qui est comme une mort, tout d'un coup on jaillit, on surgit, et puis on a un regard au-dessus, et on est comme pour toujours au-dessus. Et puis rien ne peut vous toucher. Et j'avais la sensation que rien ne pouvait me toucher.
Dans le camp.
Dans le camp. Même. Quand j'y pense, n'est-ce pas, c'est presque une expérience du même ordre que celle des canyons, quand on voulait m'assassiner. C'est comme si rien ne pouvait vous toucher. Et c'est parce que c'est une expérience du corps, n'est-ce pas ? Dans les camps de concentration, on est vraiment un pauvre, misérable corps. Et c'est dans la mesure où ce corps a été dénudé et vraiment privé de tous ses moyens et réduit à vraiment à un état de pauvre matière, que tout d'un coup, là-dedans, éclate autre chose. Qui se sent roi, hein, qui n'est pas une expérience de l'âme réellement, qui est une expérience de la conscience du corps.
Et pourtant, à ce moment-là, vous n'aviez pas bénéficié, si j'ose dire, de tout ce que vous deviez apprendre par la suite.
Non, je ne savais pas ce que tout ça voulait dire. Sinon que, quand on arrivait au bout de tout, tout d'un coup, il y avait quelque chose de très mystérieux qui jaillissait. Ça, c'était très fort, cette expérience. Je savais qu'au bout de tout, il y avait quelque chose qui est.
Parce qu'à ce moment-là, dans ces conditions-là, d'autres sont morts beaucoup et vous pas.
Pourquoi, je ne sais pas.
Vous aviez quel âge ?
20 ans. Tout juste.
Qu'est-ce qui vous a amené là, la résistance ?
La résistance. Quand on a été réellement dépouillé de toutes les habitudes, parce que c'est très radical dans les camps, on était réellement dépouillé des habitudes, n'est-ce pas ? De tout ce qui édifie un homme, c'était flanqué par terre et brutalement. Quand on est dépouillé de toutes les habitudes, alors on s'approche un peu plus près de cette mystérieuse matière, n'est-ce pas, qui en fait est le lieu de l'esprit.
Qu'est-ce que vous
pas
avez...
dans les hauteurs de la conscience et les méditations dans sa chambre, mais vraiment dans le corps.
Qu'est-ce que vous avez fait après ?
Eh bien, j'ai eu des expériences semblables dans la forêt vierge. Je suis parti dans la forêt vierge.
Pourquoi ?
Parce que ce monde me suffoquait, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas respirer dans votre monde. Qu'est-ce que j'allais faire ? Un fonctionnaire, un technicien, toute cette mécanique me semblait irrespirable.
Je veux dire, c'était l'expérience des camps qui vous poussait vers ce besoin de liberté ?
Ah oui, ça, plus jamais je voulais être prisonnier de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Je suis parti dans la forêt vierge. Eh bien, là aussi, j'ai eu des expériences du corps, n'est-ce pas ? Quand vraiment j'étais en plein dans cette forêt, et il s'est développé une telle compréhension, si je puis dire, entre ce corps et la forêt, et les odeurs, les ruisseaux, les rivières qui passent là, c'est comme si la gravitation, la pesanteur n'existait plus. J'ai eu des heures où je marchais comme en volant, comme s'il y avait un certain rythme du corps qui était tellement accordé qu'il n'y avait plus aucun effort et que les pieds touchaient à peine terre. Ça me remplissait d'une joie folle, merveilleuse. C'est seulement après qu'on se pose des questions, qu'on se dit ceci ou cela. Et c'est, ça a été comme ça pendant des mois.
Et puis ?
Et puis, je n'ai jamais voulu être emprisonné par quoi que ce soit, même par la Forêt Vierge. Je me suis dit un jour que j'étais en train de devenir un fonctionnaire de la Forêt Vierge. Alors, oui, je suis parti plus loin. En fait, il n'y a qu'une aventure qui pouvait me retenir, c'était celle de Mère et de Chorobindo, parce que c'est la grande aventure.
Comment vous les avez rencontrés ?
Eh bien, au lendemain des camps de concentration, après la guerre, j'étais élève de l'école coloniale, et un parent à moi était nommé gouverneur à Pondichéry. Et il m'a dit, tu veux venir ? Veux-tu venir voir ? Alors moi, j'étais très heureux de laisser tomber l'école, n'est-ce pas ? Je suis parti avec lui. Et là, j'ai rencontré Mère et Chorobindo. J'ai vu l'un et l'autre.
Ils vivaient déjà donc côte à côte, n'est-ce pas ?
Oh oui, c'était en 46, 47.
Pour vous, ça a été quoi, ça,
J'ai eu l'impression que je touchais à quelque chose de... N'est-ce pas ? Être regardé par Chorobindo, c'est quelque chose qui vous emporte comme tellement chez soi. Tout d'un coup, on est comme dans le lieu, on est chez soi. Comme on n'a jamais été chez soi nulle part.
Et pourtant, cette fois-là, vous n'êtes pas resté.
Non, parce que je ne me voyais pas rentrer dans un ashram, n'est-ce pas ? Pour moi, c'était une prison de plus. Je ne comprenais pas et je ne voulais pas d'ashram. C'était à ce moment-là que je suis parti dans la Forêt Vierge.
Et puis vous êtes revenu.
Et puis je suis revenu. Justement, après avoir fait mon aventure, ma grande aventure, entre guillemets, dans la forêt, j'étais tiré par l'Inde et par mes... Et c'est elle qui m'a fait comprendre la grande aventure.
Et là, vous êtes resté ?
Pendant longtemps, je me suis battu parce que je voulais beaucoup retourner dans la forêt.
Vous avez essayé de repartir ?
Oh, beaucoup. J'ai beaucoup essayé.
Et vous êtes reparti ?
Non.
Non.
Je me suis beaucoup essayé de ne pas partir, plus exactement. Mais mère... Et puis mère, elle était si... Oh. Elle était pleine d'une lumière si, si douce. On comprend ce que veut dire l'amour quand on a vu mais... Et puis, je ne sais par quel privilège, elle m'a choisi pour raconter son expérience.
Pourquoi, à votre avis ?
J'ai l'impression que c'est ça. Elle voyait bien que je voulais constamment repartir vers la forêt, n'est-ce pas ? Et c'est comme si, avec son petit sourire moqueur, elle me disait, tiens, je vais te donner une aventure encore plus belle. Il y a encore des aventures plus belles que celle-là. Et en effet, au lieu de faire un bond dans le passé de la Terre, de revenir au temps de l'anthropoïde et du carbonifère, il fallait faire un bond dans l'avenir de la Terre, n'est-ce pas ? Avec Mère, c'était le bond dans l'avenir de la Terre. C'était tous les jours cette expérience si merveilleuse du grand possible. Que tout est possible. Quand elle parlait, on voyait, on touchait. C'était un espèce de miracle vivant, et pourtant d'une logique si étonnante, mais qui n'est pas la logique de l'homme, n'est-ce pas, qui est de la prochaine logique.
L'ashram, qui était invivable pour vous d'abord, est devenu vivable.
Oh, c'est pas que l'ashram soit devenu vivable pour moi. Ce qui existait pour moi, c'était Mère. J'étais près de Mère, et puis c'est tout. Le reste, ça m'occupait pas, m'intéressait pas. Je me posais pas de questions. Il y avait de très gentils gens dans cet ashram, n'est-ce pas ? Il y avait beaucoup de très gentils gens, mais c'est pas l'ashram qui m'intéressait en tant qu'ashram. Ce qui m'intéressait, c'est parce que j'étais avec Mère, c'est tout. C'est parce qu'elle était là que j'étais là. Je serais pas resté autrement.
Vous la voyez tous les jours ?
Enfin, extérieurement, je la voyais tous les jours. Mais nous nous rencontrions à certains jours particuliers, ou quand son emploi du temps était possible, parce qu'elle était assaillie par tant de gens. Alors là, elle se ménageait, nous nous ménagions, si je peux dire, quelques heures où elle laissait couler son expérience. Comme s'il fallait qu'un homme de l'espèce soit le témoin de la merveilleuse aventure, puisse la dire peut-être un jour. Alors pendant 17 ans, elle m'a parlé. Pendant 17 ans, c'était vraiment l'émerveillement. Alors cet émerveillement, comment le dire, n'est-ce pas, on parle de matière, de vibration, on essaie de mettre des mots. Mais c'était la merveille vécue, chaude. Il faut que le monde comprenne sa propre merveille. Voilà. Il faut que la matière touche son propre miracle. Et c'est là, c'est si simple qu'on ne le voit pas. Mais c'est là. La prochaine espèce, elle n'est pas loin. Elle est là. C'est comme une espèce de voile d'habitude à faire tomber. De façon habituelle de réagir, de sentir, de comprendre. Un voile qui est là sur une réalité merveilleuse et pourtant matérielle. Un changement de regard. C'est ça le premier pas de la nouvelle espèce, n'est-ce pas? Un regard qui change. Alors tout le reste changera, forcément. Voir autrement, c'est pouvoir autrement.
J'ai creusé longtemps, profondément, dans une horreur de fange et de boue, un sillon pour la chanson d'une rivière d'or, une demeure pour un feu qui ne meurt pas. J'ai labouré, souffert dans la nuit de la matière pour amener le feu à l'homme. Mais la haine de l'enfer et le mépris des hommes sont ma pitance depuis que le monde a commencé. Mes plaies sont mille et une, et les rois titans m'assaillent. Va où nul n'est allé, cria une voix. Creuse plus profond, plus dedans, encore. Jusqu'à l'inexorable pierre au fond et frappe à la porte sans clé. J'ai plongé par les allées aveugles du corps jusqu'au mystère souterrain. J'ai remonté jusqu'au redoutable cœur muet de la terre et entendu la cloche de sa messe noire. J'ai vu la source d'où part son agonie et la raison intérieure de l'enfer.
C'était mère ou l'aurore d'une humanité nouvelle. Avec Satprem, Jean-Claude Bringuier, Yves Jégu, Claude Métra et la voix de Bernadette Onfroy. À l'aventure de mère, Satprem a consacré 3 livres. Le matérialisme divin, l'espèce nouvelle, la mutation de la mort. Ces 3 ouvrages ont été publiés aux éditions Robert Laffont.